11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de vous retrouver ce lundi 28 octobre sur Europe 1. Même si hier elle a pu dormir une heure de plus, elle est loin des 5867 heures de sommeil que sa fille lui doit, la créancière du sommier, Christine Béroux.
Bonjour,
est là.
Bonjour à tous.
En amour, il est comme le mouvement social de la SNCF, il sait se durcir pour éviter le train-train quotidien. Il n'est pas toujours à l'heure, mais souvent de bonne humeur. Ben H est là.
Bon, enfin, c'est vous en ce moment. Bonjour, bonjour tout le monde.
Il est heureux de voir que dans son pays, on en a dans le pantalon en nommant pour la première fois une femme au poste de Premier ministre. Le Belge Richard Ruben est là.
Bonjour.
Hier, on a pu l'admirer sur France 2 dans l'émission de Michel Drucker, alors que c'était la journée du patrimoine audiovisuel. N'y voyez aucun rapprochement. Notre monument à nous, Anne Romanoff.
Tu sais ce qu'il dit le monument?
Non,
qu'il aimerait bien se faire visiter. Au sommaire de cette émission, nous jouerons à deviner qui je suis avec deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso en hôtel 5 étoiles au bord de la Méditerranée. Notre première invitée sera Catherine Sellac qui viendra nous parler des témoignages recueillis dans son livre « À l'amour, à la vie » qui vient de sortir chez Flammarion. Puis nous recevrons l'écrivain Bernard Werber pour son nouveau roman « Sa majesté des chats » paru aux éditions Albin Michel.
11h midi, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Aujourd'hui, il y a encore des perturbations dans les trains, surtout pour les TER, trains en retard. Alors, je vous explique pour vous y retrouver. Grève de la SNCF, c'est quand on est au courant à l'avance que ça va être la galère. Quoique les grèves à la SNCF, ça finit par être le train-train, c'est quand il y a des trains qu'on va finir par être surpris. Droit de retrait, ça c'est une grève surprise parce que les cheminots sont contrariés à cause d'un accident qui met en cause la sécurité des voyageurs. Et là, avec la grève, c'est sûr qu'on est en sécurité, on roule pas, il peut rien nous arriver. Sinon, il y a perturbation, ça c'est quand un train ne roule pas, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est au moment où tu as acheté ton billet que tu t'es fait rouler. En fait, la SNCF, c'est comme les hommes en amour. Quand ils sont perturbés, tu n'as pas envie d'avoir de ticket. Perturbation, hein, c'est quand tu lèves la tête et que tu vois sur le panneau d'affichage « train supprimé ». Et là, souvent, tu réagis avec élégance. « Merde, fais chier, ras-le-bol ». Alors, ils te conseillent aussi de reporter votre voyage. C'est-à-dire qu'au moment où tu arrives à la gare avec les gosses, les valises à roulettes, que tu as posé tes RTT depuis 6 mois, tu n'as pas trop envie de reporter ton voyage. Il n'y a plus de train, les enfants. On ne va pas en vacances alors? Si, si, mais chez nous. Hein, pour l'instant, ce sont les trains qui sont en vacances. Alors après, ils nous disent, nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Ce n'est pas des excuses qu'on veut, c'est des trains, en fait. La gêne occasionnée, ce n'est pas juste la gêne, c'est le bordel, le bazar, tous les plans contrariés, les enfants qui crient, la queue au guichet, le week-end en amour annulé, la visite chez la mamie reportée. Bon, parfois, ça a des avantages. Allô, mamie? Mamie, le train est supprimé, hein, on ne pourra pas venir. Bah tant mieux, comme ça je serai tranquille avec mon amoureux, au lieu de me fatiguer à vous faire bouffer. Alors il y a aussi le vocabulaire des chaînes d'infos, les usagers pris en otage. N'exagérons rien, hein. D'abord on ne peut pas être pris en otage, on n'a pas réussi à monter dans le train. T'as aussi les usagers oscillent entre colère et résignation. Colère c'est quand tu dis merde et résignation c'est quand tu dis pfff. Alors on nous appelle les usagers de la SNCF et c'est vrai que quand tu subis les grèves, t'es un peu usager. Usager. Enfin ces derniers temps on ne les a pas beaucoup usés les trains. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des modes de transport alternatifs, Blablacar, l'avion, l'autocar, la trottinette. Enfin, pour faire un Paris-Lyon, ça va pas le faire, la trottinette. T'as l'amour qui donne des ailes. Oui. C'est là où je vois que ça fait longtemps que j'ai pas été amoureuse. On dit les transports amoureux. Alors moi, je vous aime bien, les gens de la SNCF, mais on n'en peut plus de ces grèves à répétition. C'est plus SNCF, c'est STCF. Sans train, c'est fréquent. Comme dirait ma fille, JPP, j'en peux plus.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ce week-end, on est passé à l'heure d'hiver, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h. Il était de nouveau 2h. Ouais. Si chaque jour faisait 1 heure de plus, vous en profiteriez pour faire quoi, Christine?
Moi, si j'avais 1 heure de plus par jour, je ferais l'amour avec la personne que je fréquente en ce moment. Mais après, je ne sais pas ce que je ferais des 55 minutes qui restent.
C'est un message personnel? Monsieur est trop rapide?
Peut-être.
Ben H?
Samedi soir, j'ai vécu une soirée un peu arrosée, pour tout vous dire. Et le lendemain, j'ai demandé à mon pote de me raconter ce qui s'est passé. Et ben, avec le changement d'heure, a priori, j'ai réussi à embrasser une fille à 2h10 alors que je l'ai rencontrée à 2h30. C'est ouf.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Aujourd'hui, il n'y a que 3 TGV sur 10 qui fonctionnent pour les TGV atlantiques. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à la CGT? Oh les gars, c'est quoi ce bordel? Il y en a encore 3 qui circulent là.
Un tableau trouvé chez une vieille dame a été vendu 24 millions d'euros. Ben voilà une bonne piste pour la réforme des retraites. Monsieur le Premier ministre, pour payer les retraites, organiser des vide-greniers.
Un tableau trouvé chez une vieille dame a été vendu 24 millions d'euros. Je vais m'intéresser un peu plus aux personnes âgées, moi. Anne, vous faites quoi ce week-end?
Oh, insolent. Oh putain, insolent.
Un tableau trouvé chez une vieille dame a été vendu 24 millions d'euros. Du coup, j'ai été acheter un œil chez ma grand-mère. J'ai trouvé que la vieille dame. À mon grand regret, samedi soir, Clara Morgan a été éliminée de Danse avec les Stars. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, j'observerai une minute de silence. Polémique sur le voile ce week-end à l'occasion du départ de la Transat Jacques Vabre. Doit-on interdire les voiles sur la route du Rhum? Le débat est lancé.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Christine Bérou, Ben H, Richard Ruben et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en hôtel 5 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi matin sur Europe 1 avec Richard Ruben, Ben H, Christine Bérou.
Bonjour.
Bah alors, faut vous réveiller les amis, on a une heure de plus, on dirait qu'il est une heure de moins là. Ben H, debout.
Moi je suis au taquet, patronne, je suis au taquet.
Richard.
Moi oui, tout à fait debout.
En plus vous êtes levé très tôt.
Ah oui. Ah mais je me suis levé très tôt.
Vous avez pris un Thalys pour venir de Bruxelles?
Absolument.
À quelle heure le Thalys?
À 6h du matin.
Et vous êtes levé à quelle heure?
À 5h moins 10.
Vous voyez Ben H?
C'est un exemple pour moi.
Oui, parce que lui, il habite avenue Clichy, des fois il n'est pas à l'heure.
C'est vrai.
C'est vrai?
C'est dramatique.
Oui. Alors ça, c'est quelqu'un de sérieux.
Je tire profil bas, écoutez.
Salut, vous saluez.
Bravo Richard.
Il y a un truc que je voulais quand même vous dire, c'est que j'étais bloqué dans le métro à Paris. J'ai mis plus de temps de venir ici depuis la gare du Nord que de Bruxelles à Paris.
Vous voyez, c'est pour ça que je suis en retard. S'il y avait le Thalys de Place Clichy à ici.
Voilà.
Christine Bérou, vous levez à quelle heure pour venir?
Là, ce matin, je me suis levée à 6h30, mais c'était la nouvelle lune, j'ai pas dormi. Ça vous fait ça aussi, vous?
Ça fait ça aux personnes âgées, essentiellement.
Mais c'est vrai, vous dormez, vous êtes sensible à la lune.
Ah, énormément, ouais. Bah ouais. Vous?
Bah pourquoi moi?
Bah, c'est comme les marées, je suis bretonne, donc voilà, je m'adapte. Enfin...
Et alors là, c'était la nouvelle lune, on dort pas?
Bah ouais, mais
Et ce soir, c'est quoi?
Bah c'est la nouvelle lune un peu moins nouvelle, parce que c'est un jour de plus.
Nouvelle lune, c'est comme ça que t'appelles ta fille, en fait. C'est...
Non, et alors, il faut faire quoi? Parce qu'il y a une histoire que la nouvelle lune, il faut moins manger, je sais pas quoi.
Ah bon?
Ah bah c'est raté. Ok.
Bah c'est parce que la nouvelle lune, ça stimule sexuellement, c'est peut-être pour ça qu'il faut moins manger.
Ah bon?
Ah moi ça me stimule, je suis très excité.
Bah c'est pour ça que tu t'es levé tôt comme ça.
Mais ma compagne n'était pas là, alors j'ai réglé l'affaire tout seul.
Oh. Et Christine, vous étiez...
Non, je fais un petit break avec... ça va parce que, en ce moment... Non, mais parce que j'ai fait un peu... Non, j'ai fait un peu n'importe quoi. Quelques semaines, je sortais avec trois garçons en même temps. Et j'ai un copain qui m'a dit que ça faisait fille facile. Et je lui ai dit non, ça fait pas de moi une fille facile, ça fait de moi une fille organisée. Et je sais pas comment fait Ben H, parce que c'est très compliqué d'avoir énormément de dossiers en même temps.
Et là, vous avez tout arrêté.
J'ai fait un petit break, je faisais un peu n'importe
une
quoi.
Une semaine sabbatique.
Oui, voilà.
On appelle ça la jachère en agriculture.
C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué l'actualité du week-end. Je vous propose de partir pour un séjour de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, relais château, formule petit déjeuner, accès piscine, espace marin. Partez à l'île de la Lagune, l'unique boutique hôtel Thalasso Spa 5 étoiles des Pyrénées-Orientales. Un cœur de verdure bordé par la Méditerranée, montagne à l'horizon, soleil chaleureux. Un lieu de villégiature qui préserve votre intimité, où chaque endroit et penser cocooning pour le confort des plaisirs et des yeux. Plus d'infos sur www.hotel-il-lagune.com. On joue d'abord avec Malika. Bonjour Malika.
Bonjour Malika.
Bonjour.
Bonjour Malika. Alors Malika, vous êtes assureur, enfin on peut dire assureuse, non?
Oui, enfin oui, on peut le dire aussi, oui.
Vous habitez à Saint-Pern dans le 35?
Tout à fait, en Bretagne.
Voilà, et vous êtes toujours en déplacement? Vous faites 200 km par semaine?
Non, pas loin de 2000 km par semaine.
2000 km?
Ah, oui.
Et vous nous écoutez en voiture alors?
Oui, justement.
Vous êtes en couple depuis un an?
Oui.
Et vous êtes resté une heure sur le site de rencontre et vous avez rencontré le premier qui vous a envoyé un message.
C'était quel site? Dites-moi tout de suite.
Parce que là, c'était un peu la pêche miraculeuse, là. Premier site de rencontre, première heure, et ça fait un an que vous êtes avec, c'est incroyable.
C'est ça.
Et quand vous faites les soldes, vous trouvez tout de suite la bonne taille? Comment ça se passe?
Non, pas du tout, malheureusement. pas pour le shopping.
Alors moi, ça fait un an que je suis sur un réseau et mon histoire a duré une heure. Voilà,
c'est à l'envers. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, comme métier ?
Ben, il est commercial.
Comme vous.
Et il voyage aussi 2000 bornes par semaine, non ?
Il en fait pas mal, oui.
Et comment vous faites pour vous croiser ?
Bah, au péage.
Mais c'est l'avantage quand tu ne te vois. Mais quand tu ne te vois pas souvent, bah, du coup, tu profites, c'est ça ? On n'a pas le temps de s'engueuler quand on se voit pas souvent, c'est ça l'avantage.
Exactement, tout à fait. On s'engueule au téléphone.
Ah oui, d'accord.
Sympa aussi.
Et vous engueulez pourquoi ?
Non, on s'engueule pas. Non.
Vous engueulez pas.
Oui, bah c'est les débuts, non, quoi. Va.
C'est trop frais, c'est trop récent.
Oh bah oh, non, on peut s'engueuler quand même. Hein.
Ah ouais, au bout d'un an, c'est déjà bien. Hein.
Ouais.
Ah bon ?
Bah oui.
Bah c'est peut-être pour ça qu'on est seul, Anne.
On s'engueule trop vite.
C'est ça.
Malika, vous allez jouer avec qui ?
Mais écoutez, avec vous.
Oh là ! Oh là là !
On a une audacieuse.
Vous savez que souvent je perds, hein, quand même. Et en plus, je suis une mauvaise joueuse. J'engueule les gens quand ils trouvent pas.
D'accord.
Vous avez passé un bon moment.
Prenez la liste 1 ou la liste 2 ?
Mais écoutez, la liste 2.
On y va ?
On y va.
Top chrono. C'est un joueur très célèbre de l'équipe de France. Il a marqué plein de buts.
Mbappé ?
Oui. Il chantait pour Like a Candle in the Wind. Pour, vous savez, il est Didi, il a des lunettes. Il est gay, il a des grosses lunettes, il est anglais. Vous savez, un chanteur, là.
Ça commence.
Oui, ça y est, elle l'a dit. C'est une. Elle était chroniqueuse chez Laurent Ruquier. Elle est sur une radio concurrente. Elle est très jolie. Elle fait l'émission politique.
Passe.
Mais si. Oh, c'est un joueur de tennis qui a gagné Roland Garros, qui chantait Saga Africa.
Yannick Noah.
Oui, elle chantait « Mais je n'ai qu'une philosophie ». Elle était jurée. Oui, très bien. Il a été pris dans un truc sexuel. Il a fait le film avec Jean Dujardin sur l'affaire Dreyfus. Mais si, qui ?
Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Allez, 4 bonnes réponses, c'est bon.
Bon, 4, vous n'avez pas trouvé Léa Salamé. Bon, j'ai peut-être mal fait deviner.
Poulanski, le bal des vampires.
Oui, je n'ai pas un film qui m'est revenu comme ça de Poulanski. Et là, je parlais du film l'affaire Dreyfus avec Jean Dujardin, dont on dit beaucoup de bien, voilà.
D'accord.
Bon, 4 bonnes réponses, c'est pas mal. On va voir comment se débrouille Julien. Et je vous ai pas engueulé, sauf... Non, je vous...
Ça fait très pleine lune, tout ça.
Ça s'appelle le déni.
Alors, on joue maintenant avec Julien. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Votre appel a été mis en attente.
Ah bah, oui. Julien, vous dites bientôt, si ça vous Julien. Intéresse pas. Allô, Julien ?
Oui, je suis là. Oui.
Alors, vous nous raccrochez au nez comme ça ?
Et non. Du coup, j'avais mon patron qui appelait, en fait. Alors, du coup,
Eh ben, c'est perdu, Julien.
Alors, vous êtes menuisier, Julien, à Larnage, dans le 26 ?
Exactement, ouais, tout à fait.
C'est près de où, le Larnage ?
C'est à côté de Vienne, en Isère, entre Vienne et Valence.
Et menuisier, ça veut dire vous faites quoi ? Vous faites...
Eh ben là, vous voyez, je suis chez un client et je suis en train de faire un escalier en bois.
D'accord. Et là, votre patron vous a appelé pour vous dire quoi ?
Ben, il m'a donné un chantier pour cet après-midi, du coup.
Ah.
Et j'ai dit, rappelle-moi plus tard, je suis désolé, je suis occupé.
Mais vous avez fini, voilà. Vous aurez fini l'escalier en bois ce matin ?
J'aurais fini en fin de matinée, 11h30, j'ai fini.
Il vous reste tous vos doigts, Julien ? Il n'y a pas des accidents ? Non, mais les menuisiers, souvent, ils se coupent.
Enfin, il fait attention.
Jusqu'à présent, non.
Arrête, tu vas lui porter malheur.
Ouais, c'est clair, grave. Ouais. Si ce matin, je finis à l'hôpital, c'est à cause de Christine.
Et là, le client, il est d'accord que vous jouiez au jeu quand vous êtes en train de poser l'escalier en bois ? Vous l'avez prévenu ?
Ah, il n'est pas là.
En fait, vous sciez en même temps.
Bon, alors, il faut des personnalités qui ont marqué le week-end. Liste 1, du coup, vous jouez avec qui ?
Je vais prendre, je voulais prendre toi, Anne, je peux te tutoyer, ouais.
Bah oui, bon. Allez.
J'ai pas le tutoiement facile, mais bon.
Vu que tu as été prise, je vais prendre Christine, allez.
Ah, Christine.
C'est très jouable.
Oui, c'est très jouable parce qu'elle me semble plus facile, cette liste, oui, comme par hasard.
C'est ça quand vous jouez, même.
Non, c'est vrai, je trouve qu'elle est plus facile. Je dis à chaque fois équilibrer les listes. Bon, bref, ça m'énerve. Parce que moi, je la trouve plus facile. Bon, il faut dépasser 5 bonnes réponses et vous partez en week-end en thalasso. Vous êtes prêts ? Attention, top chrono. Réponses.
C'est notre Premier ministre.
Édouard Philippe ?
Oui, c'est une ancienne actrice porno qui a fait Danser avec les stars. Elle a été éliminée samedi et Ben H est triste. Morgan. Oui, c'est la fille de Serge et de Jane Birkin. Elle est mariée à Kivon Attal.
Je passe.
Il était jury dans The Voice. Il a chanté Qui voulait être Grace
Florent
Kelly. Non, il est anglo-saxon, un peu. Enfin, il est syrien. Oui, c'était la femme de Bill, qui était président de la République, de la présidente des États-Unis. Voilà.
Hillary, oui, comment ?
Elle a chanté ce matin. Un lapin a tué un bécassine, elle chante pour les enfants. Voilà. C'est un tennisman, il gagne tout. C'est très simple, il gagne tout. C'est le tennisman, voilà. Oui.
Waouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses.
Bravo.
Vous avez bugué sur Charlotte Gainsbourg. Vous n'avez pas trouvé.
Pas.
Qui est cette femme qui répondait à votre place, Julien ?
Quoi ?
De quoi?
Ah oui, j'entendais une voix. On l'a entendu, une voix de femme qui répondait dans votre place et qui vous soufflait les réponses. C'est qui?
Ah, c'est ma copine, du coup. Elle est venue en catastrophe m'aider.
Ah, passez-nous la copine.
Il a l'air sympa, le chantier.
Ah, bah allez, je la passe, Hélène. Ouais.
Allô, Hélène?
Allez, vas-y, parle.
Oui.
Heureusement que vous étiez là, hein.
Non, il savait toutes les réponses, donc ça va.
Moi, il savait toutes les réponses quand vous lui souffliez, mais bon, c'est bien. Vous faites quoi, Hélène, comme métier?
Ah bah là, je recherche d'emploi.
D'accord, bah ça va vous faire du bien, un petit week-end.
Oui, voilà, c'est pour ça que je suis venue en renfort.
Vous avez bien fait. Profitez bien, on vous embrasse tous les deux.
Ah bah merci beaucoup, merci. Franchement, bon, et puis là, super, on fait de gros bisous.
Et ouais. un petit cri de joie, Julien, quand même.
Allez, et là, on fait en même temps. 1, 2, 3, you!
Oh, c'est un beau cri joie, ça.
Grâce à Europe 1, vous partez pour un séjour de 2 nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, Relais Château, Formule Petit Déjeuner, Accès Piscine, Espace Marin. Plus d'infos sur www.hôtel-île-lagune.com. Encore un cri
super,
de joie.
Bon, on vous remercie beaucoup. Ça va être un beau petit week-end en amoureux. Encore un petit cri de joie.
Oui.
Allez, ouais. 1, 2, 3.
Malika.
Oui.
Alors, vous savez que pour le perdant, parce que j'ai demandé à ce que les perdants aient un cadeau, Europe 1 vous offre un bon d'achat de 50 € à valoir sur le site cadeau.com, première boutique en ligne de cadeaux personnalisables. Plus de 1500 cadeaux sur lesquels vous pourrez inscrire un prénom, graver un message ou mettre une photo. Allez voir sur cadeau.com.
Merci beaucoup.
Bon, et vous allez rejouer avec nous d'ici un mois parce que, voilà. Parce que la liste était plus difficile.
D'accord, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas été aidée.
Quoi?
Vous allez nous l'énerver.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait personne pour me souffler les réponses.
C'est vrai, je note, absolument, je suis complètement d'accord. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Christine Béroux, Richard Ruben, Ben H et notre première invitée, Catherine Sellac, qui vient nous parler de son livre « À l'amour, à la vie » qui vient de sortir chez Flammarion.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Ben H, Richard Ruben, Christine Béroux. Et notre première invitée qui est journaliste et productrice, durant 22 ans, elle a offert le petit déjeuner du week-end aux téléspectateurs de France 2 dans Thé ou Café. Elle vient de publier « À l'amour, à la vie » chez Flammarion, un livre de témoignages où 14 personnalités lui ont raconté leur vie amoureuse, parfois surprenante, parfois émouvante. Merci d'accueillir Catherine Sellac. Bonjour Catherine Sellac.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Alors en 2018, vous avez publié « À la vie, à la mort » qui a été un succès. Et vous avez décidé de reprendre le même principe pour votre nouveau livre « À l'amour, à la vie ».
Alors bon, j'ai choisi un sujet beaucoup plus glamour, vous en conviendrez. J'ai trouvé que la mort était pendant à peu près 2 ans de ma vie un peu pesante. J'y ai goûté, j'ai trouvé que c'était un peu amer. Ouais. Du coup, j'ai choisi un sujet qui est aussi universel et aussi intemporel, qui concerne tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, en fait, d'aimer, d'être aimé, d'être rejeté, de se séparer, de rompre.
Ce qui peut être amer, du coup, aussi.
Aussi, ça peut être très amer, mais ça peut être aussi délicieux, ça peut être aussi un nectar. Donc,
vous
voilà
avez demandé à 14 femmes et hommes, Catherine Sellac, tous connus, de vous raconter leur vie amoureuse. Est-ce qu'ils ont tout de suite accepté?
Alors, ils ont été assez formidables parce que ce sont des personnes que j'avais déjà rencontrées dans le cadre de Thé ou Café. On avait tissé des liens. Il y a seulement Anne, je sais pas, vous vous souvenez d'Anne Roumanie?
Je connais pas.
Non, vous ne la connaissez pas. Moi, je la connais pas mal et justement, je savais qu'elle me dirait non.
C'est vrai, vous m'aviez demandé.
Oui, oui, ça, oui, oui. Et alors,
Anne, moi, ça, même... ma vie amoureuse tient sur un post-it. Hein.
Oh, menteuse. Bon, elle est très pudique. Les autres aussi le sont et je suis d'ailleurs très reconnaissante à toutes ces personnes de m'avoir accueillie dans leur intimité. Et j'ai voulu garder, c'est des conversations, c'est des entretiens, et j'ai voulu garder d'ailleurs l'autre. Oralité. C'est-à-dire que vraiment, quand on lit les témoignages, on entend les voix, que ce soit celle de François Berléand, d'Elena Noguera ou de Sandrine Bonner, on entend les voix. Et donc, ils m'apportent en fait leur cheminement amoureux, en bien, en mal, pour le meilleur et pour le pire. Mais et ça commence, ma première question, c'était quand est-ce que vous avez ressenti la première fois un regard amoureux? Alors évidemment, on parle aussi des parents, on parle de la nounou, on parle d'un prof...
L'amour au sens large.
Ouais, au sens large. Ça peut être aussi la première fois, le premier flirt, la première relation sexuelle. Et puis.
Mais vous êtes très douée pour faire parler les gens. Ils vous racontent des trucs incroyables.
Ouais, c'est
vrai. Sandrine Bonner, elle va loin.
Ouais, elle va loin.
Et vous, vous parlez pas de votre vie amoureuse, Catherine Sellac?
Eh bien, j'étais sûre que la question viendrait. Et vous savez très bien que, comme vous, on se dissimule, en fait, derrière les questions. Moi, c'est ma tenue de camouflage.
Oui, non, mais aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions, Catherine Sellac. Donc, vous avez eu un enfant à 18 ans?
Ça, c'est vrai.
Oui, ouais. Et vous étiez amoureuse, alors?
Pas spécialement.
Oh
ah, là,
il va être content.
Mais ça n'a pas duré très très longtemps. Voilà, c'était peut-être un petit au départ, ça pouvait être un accident de parcours. C'est devenu quelque chose de formidable parce que avoir un enfant, en plus, c'est un enfant unique, donc c'est une merveille. Mais oui, je pense que c'était en 73. En 73, l'IVG était moins pratiqué. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, c'est formidable d'avoir un enfant en plus avec 18 ans de différence. Mais avoir des enfants comme ça très très jeunes, je ne suis pas sûre que ce soit une très très bonne chose. Parce que moi, ça m'a un peu retiré, sacrifié peut-être une vie légère, un peu estudiantine ou d'adolescente. Et maintenant, ma vie d'adolescente, je la vis aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous êtes adolescente, Catherine Sellac?
Oui, posez ce pétard d'ailleurs.
Eh bien, c'est drôle ce que vous dites, parce que hier, pour la première fois, j'ai goûté un pétard.
Ah bah, allez.
Vous voyez, deuxième révélation. Et ça ne m'a fait aucun effet.
Ah, mais c'est maintenant que ça vous fait de l'effet.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Catherine Sellac, venue nous parler de son livre « À l'amour, à la vie, des témoignages sur l'amour » qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Ben H, Richard Ruben, Christine Béroux et notre invitée Catherine Sellac, venue nous parler de son livre « À l'amour, à la vie », un livre qui vient de sortir aux éditions Flammarion, les témoignages de 14 personnalités sur leur vie amoureuse. Alors Catherine Sellac, revenons à vous.
Non.
si. Alors j'ai appris en lisant votre fiche que vous êtes née à Rennes.
Je suis fichée ?
Oui, vous êtes fichée, mère au foyer, et votre père très engagé dans le syndicalisme.
Mais
quand on vous voit, moi j'étais sûre que vous étiez une fille de bourgeois, médecin.
Mais pourquoi
à côté comme ça, j'ai fumé un pétard. C'est la première fois de ma vie.
Comme quoi on peut avoir des a priori.
Mais oui, mais vous avez quand même une voix très chic, Catherine Sellac.
Ouais, mais je l'ai beaucoup étudiée.
Ah bon?
Non, je crois que effectivement, je viens d'une famille plutôt assez modeste, on va dire plutôt vraiment petite bourgeoisie de province. Et effectivement, un père qui était très, très convaincu que l'égalité existait, que la justice sociale existait. Et en fait, c'était un homme évidemment très militant et très engagé. Et comme il avait trois filles, il a considéré que c'était inutile de nous en parler. C'est-à-dire que moi, j'ai compris l'engagement beaucoup plus tard et pas du tout par mon père. Étant donné qu'on était des filles, ça n'avait aucun intérêt, en fait, de nous apporter le savoir, la connaissance qu'il avait. Et en fait, je trouve que moi, ma vie, elle a commencé comme ça. Moi, je suis très féministe et je pense que c'est dû, effectivement, à mon père qui était indifférent à nous et il n'a même pas voulu nous apporter, en fait, ce qu'il savait, c'est-à-dire l'engagement qui était le sien. Il nous l'a même pas véhiculé.
Et votre mère vous a appris qu'il fallait être indépendante.
C'est elle, effectivement, qui, elle, était mère au foyer, qui s'occupait de ses trois filles, qui m'a toujours dit, mais sois indépendante, travaille, et surtout, ne dépend de personne, et surtout pas d'un homme.
Donc votre mère n'était pas heureuse avec votre père?
On peut pas dire, mais elle était quand même très amoureuse de lui. C'est bizarre. En fait, l'amour, je vous assure, mais c'est une étrange affaire. Parce que dans ces témoignages aussi, on ressent ça aussi. On ressent le fait que, par exemple, il y en a trois ou quatre témoins. Il y a Elena Noguera, il y a Marc Lévy, qui raconte que leurs parents étaient tellement, Marianne James aussi, étaient tellement fusionnels qu'ils se sentaient exclus de cet amour. Et ils étaient jaloux, en fait, de l'amour que se portait leur père
c'était pas
et
votre
leur
cas.
Mère. Moi, c'était pas du tout mon cas. Moi, c'était, je ramassais ma mère à la petite cuillère parce qu'elle était hyper triste. Mon père n'avait jamais même un geste de tendresse pour elle et elle en a beaucoup souffert. Donc moi, j'ai fait une vie totalement différente où l'amour a de l'importance, l'amour des autres aussi. Moi, je crois beaucoup à ça. Alors, ça paraît très mièvre. D'ailleurs, c'est la question aussi que je pose à mes témoins. Je leur demande, est-ce que vous trouvez que c'est nier d'être amoureux? Et ils me répondent tous, c'est ceux qui ne le sont pas, qui considèrent qu'on est mièvre quand on est amoureux.
Richard Ruben a des questions à vous poser.
Et notamment, il y a François Cuzet qui est là.
Je ne sais pas combien de fois je suis venu vous voir, Catherine. Mais purée, qu'est-ce que c'est bon. Vous êtes un peu mon psy, mon doudou. Depuis que l'émission s'est arrêtée, je dois vous le dire, je dors plus. Vous accepteriez de refaire une séance avec moi, même hors antenne?
François Cluzet, c'est formidable d'ailleurs, vraiment, on a l'impression qu'il est là. Et lui, c'était ce qui m'avait très très touchée vraiment et impressionnée, c'est quand il avait parlé de Marie Trintignant.
Ah oui,
ouais, dans l'émission, il en avait parlé, il était très très en colère, il avait dit « moi je pourrais jamais, jamais, jamais pardonner à Quentin, jamais ».
Comment tu veux sortir de ça pour faire rire après ça? Alors mes chéris, moi c'est Cyril Hanouna, alors on peut en sortir, franchement, je vous dis Catherine, c'est là que c'est énorme, hashtag Kendarka. Je vous adore, je vous kiffe grave. Catherine, je vous dis franchement, j'ai pas la carte, mais je voudrais prendre un thé ou café avec vous. Alors, interviewer de face, dos à dos, assis, couché, debout, comme vous voulez. Alors, si l'émission reprenait, vous m'accepteriez?
Alors, quand il est venu, parce qu'il est venu une fois sur le plateau de thé ou café, en fait, il était très petit garçon, Cyril.
Ah bon? Je savais pas qu'il était venu.
Oui, il est venu une fois et c'est pas celui que vous décrivez et qu'il peut être comme ça dans son émission. Mais en fait, quand on l'interroge, il est gêné. Parler de lui, il a un petit peu de mal. Et je l'avais trouvé, très réservé, vraiment beaucoup sur la réserve, vraiment. Ah ben donc voilà. Comme quoi, on est double. Hein.
Alors il y a un invité qui est venu deux fois chez vous. Il avait entamé une chanson et il l'avait pas terminée. C'est Sting.
My song is for you, Katerina Selak. In a lonely day, sans boire un thé, un café. I send an SOS to the world. J'envoie un SOS à Catherine. J'espère qu'on va se revoir. Message in the bottle, Catherine.
Bravo.
Merci Catherine Selak d'être passée nous voir. On rappelle votre livre « À l'amour, à la vie, des témoignages de personnalités sur l'amour au sens large du terme » aux éditions Flammarion. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans quelques instants et c'est Bernard Werber qui sera notre invité. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Ben H.
Ouais, bonjour.
Richard Ruben, Christine Bérou. Et notre invité ce matin qui est un des écrivains français les plus lus dans le monde, traduit en 37 langues. Il a vendu en tout plus de 35 millions de livres. Star en Russie, superstar en Corée, superstar dans notre studio. Entre romans et approches scientifiques, on lui doit d'avoir abordé sous un jour nouveau la vie des fourmis, des anges, des dieux, des humoristes et maintenant des chats. Le géo trouve tout de la littérature, l'éternel rêveur Bernard Werber est avec nous ce matin.
Enchanté.
Bonjour Bernard Werber.
Bonjour, content d'être là.
Bienvenue sur Europe 1.
Ben, merci de m'inviter.
Vous revenez avec ce livre, Sa Majesté des Chats. On dirait que la cause animale, c'est important, mais de là appeler son chat Sa Majesté, c'est pas un peu trop?
Bientôt, peut-être que les chats s'occuperont de la cause humaine. Peut-être que c'est eux qui inverseront le système. Ça m'amuse toujours de changer de point de vue, se demander qu'est-ce qu'ils pensent de nous plutôt que nous, qu'est-ce qu'on pense d'eux.
Alors, comment vous faites, Bernard Werber? Vous regardez le chat et vous rentrez en communication avec lui et vous racontez le monde de son point de vue, c'est ça?
Oui, maintenant, c'est une grande prétention d'essayer de comprendre un chat. J'essaie d'imaginer ce qu'un animal qui reste posé à me regarder en train d'écrire peut penser. Et après, j'essaie de me renseigner déjà sur sa vie. Par exemple, les chats perçoivent beaucoup plus d'images, beaucoup plus de sons. Ils perçoivent beaucoup plus de vibrations que nous. En fait, ils sont beaucoup plus sensibles au monde que nous. Donc, j'essaie d'imaginer que pourrait être un esprit qui perçoit le monde, l'univers de manière beaucoup plus sensible, déjà.
Alors, cette idée vous est venue au moment des attentats.
Oui.
Parce que vous vous êtes dit que vous aviez envie de parler de ça, mais pas d'une manière frontale, c'est ça ? Donc, vous avez pris le prisme d'un chat ?
Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'émotions.
En 2015
voilà, on était tellement aveuglés. Je me suis dit, d'abord, c'est le devoir d'un écrivain de son époque de parler de ce qui se passe à son époque. Et ensuite, d'en parler autrement. Et c'est le grand avantage de la littérature fantastique ou science-fiction, c'est qu'on peut changer de point de vue. Alors, je me suis amusé, en effet, avec les fourmis, à prendre le point de vue des fourmis. Mais là, il fallait un animal qui puisse comprendre ce qu'est un être humain et comprendre que les êtres humains, dans un attentat de type Bataclan, sont en train de se tuer. Et donc, à ce moment-là, se poser la question, pourquoi les humains se tuent entre eux sans même se connaître ? Et la conclusion à laquelle arrivait ma chatte, qui s'appelle Bastet, c'est que les humains sont arrivés à une sorte de fin de chapitre de leur civilisation et qu'arrivés à cet endroit, ben, ils ont envie de laisser la place à un autre animal, donc les chats.
Sauf qu'on s'est toujours tué pour rien depuis la nuit des temps.
Alors, là, j'ai avancé une théorie étrange, mais vous savez, la plupart des animaux s'autorégulent. Peut-être que la guerre ou les épidémies sont notre forme d'autorégulation. L'idéal, ça serait qu'on arrive à s'autoréguler sans avoir besoin de faire de violence. Mais ça, c'est une pensée actuellement qui n'est pas...
Pas dominante.
Non, pas dominante. Mais si on regarde les plantes, les herbes, quand il n'y a plus de terre ou il n'y a plus d'oligo-éléments, arrêtent de faire des plantes, les lapins arrêtent de se reproduire. Toutes les espèces animales savent s'autoréguler, sauf l'être humain, parce qu'il y a un côté culturel, c'est-à-dire on considère que notre croissance démographique fait partie de notre droit, si ce n'est que d'habitude on allait sur d'autres continents, et là on ne peut pas coloniser notre planète, donc on se retrouve dans un univers étroit dans lequel on ne peut plus avancer. Et là, on est coincé. C'est un peu ce que j'évoque dans mon roman. On est peut-être arrivé à une fin de chapitre.
Alors, vous avez publié aussi l'encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats. Vous êtes toujours aux éditions Albin Michel. Et alors là, on apprend des choses sur les chats qui voient mieux que nous, ils entendent mieux que nous, ils se déplacent plus vite que nous. Ils ont plein de qualités, les chats, quand on vous lit.
Ben déjà, ils sont plus beaux que nous, je trouve. Nous, on a des poils. Enfin, pour ceux qui ont des poils que dans le haut du crâne, eux, c'est vraiment une fourrure partout. Puis le fait d'avoir... cette souplesse, je sais pas. Vous avez déjà eu un chat ?
J'aime pas du tout les chats.
Je pose la question.
J'ai vécu avec un homme qui avait un chat et je lui ai dit je n'aime pas les chats. Il m'a dit il va peut-être rester plus longtemps que toi.
Vous avez le sens de l'humour, hein.
L'amour.
Et ça s'est vérifié. Je suis partie avant le chat. Vous arrivez à dialoguer avec votre chat en miaulant, Bernard Werber ?
Non. Vous savez que le ronronnement des chats répare les os. On s'est aperçu que les gens qui avaient des problèmes, ils se cassaient les os, par exemple, au fond du ski. Quand le chat arrive et ronronne, l'os se ressoude plus rapidement. Parce qu'il ronronne entre 15 et 25 Hz, qui est une onde sur laquelle les os se ressoudent. Donc quand même, ça fait réellement du bien. Et de même, quand on est déprimé, un ronronnement... j'ai un ami, Jean-Yves Gaucher, qui a découvert la ronronthérapie. Il a fait
la ronronthérapie ?
Oui, il soigne les gens en faisant écouter des ronronnements.
Et faites un ronronnement, Bernard Werber.
Ah, je ne réussis pas très bien. Il faut faire aspirer, souffler. Ça ressemble un peu au ronflement.
Mais moi, ça me fait peur. J'ai l'impression que quand le chat il fait ça, j'ai l'impression qu'il va me sauter dessus. Moi.
Ah non, c'est vraiment bienveillant. On a fait une fête au Grand Rex.
Ça s'appelait la fête des chats.
La fête des chats. Et on a fait ronronner 2800 personnes. Et je peux vous dire que 2800 personnes qui essaient de ronronner, ça donne.
Allez-y, faites ronronner le public, là, Bernard Werber.
Est-ce que vous êtes prêt à ronronner ?
Ils sont nés pour ça.
Il faut le faire en aspiration et en soufflant. 1, 2, 3.
C'est pas un grand moment, ça.
Ben voilà.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de cette émission. On va ronronner tous ensemble avec Bernard Werber. On nous parle de son livre, son roman, Sa Majesté des Chats, Le Monde vu par un chat aux éditions Albin Michel, et son encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats, tout sur les chats raconté par un chat, toujours aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Ben H, Richard Ruben, Christine Bérou et notre invité Bernard Werber, venu nous parler de son dernier roman Sa Majesté des Chats aux éditions Albin Michel. Alors vous avez fait des études de criminologie, Bernard Werber, de parfumerie, de théâtre.
Ouais.
Tout ça, vous croyez en l'adage de tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné à faire ?
Ah ouais ? Parfait, génial. Non, je crois que nous luttons pour ne pas nous ennuyer. Donc j'ai appris des tas de choses pour ne pas m'ennuyer. Et puis la parfumerie, c'est l'idée d'inventer des parfums qui correspondent aux histoires. Je voulais faire des parfums de pluie, de chocolat, des parfums de bois qui correspondent à mes histoires et les mettre directement dans l'histoire.
Et là, vous avez réussi à faire ça parce que vous l'aviez fait dans un journal lycéen, où vous parfumiez les pages selon ce que vous racontiez. Voilà, mais ça devait sentir bon.
Ce qui puait vraiment, c'est ma propre chambre dans laquelle j'avais des difficultés à m'endormir parce que j'utilisais des essences pures. Et l'essence pure, vous mettez une goutte, vous pouvez laver autant que vous voulez. C'est vraiment, ça sent vraiment très très fort. Donc je faisais de la chimie de parfum. C'est un métier et j'ai compris mes limites. En tout cas, je faisais des odeurs bizarres. Puis j'ai dit, c'est l'odeur de mon histoire.
Ouais. Alors vous avez été, avant de publier Les Fourmis, vous avez été journaliste scientifique au Nouvel Observateur pendant 7 ans.
Ouais.
Si vous n'aviez pas eu de succès avec Les Fourmis, vous seriez quoi maintenant ? Rédacteur en chef de Sciences et Vie Junior ou...
Je crois que je serais journaliste, peut-être chroniqueur dans votre émission. Journaliste, il y a un problème, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que vous avez des
alors
patrons...
Alors qu'ici, il n'y a pas de hiérarchie du tout. C'est vraiment,
Non, c'est, enfin, le Nouvel Obs, c'était l'armée mexicaine. Il y avait 120 journalistes, il y avait 100 chefs et 20 personnes qui bossaient. Alors au bout d'un moment, c'est épuisant. Je ne sais pas comment sont les autres entreprises, mais j'ai remarqué qu'on a en France une tradition de fabriquer des tas de chefs. Et après, au final, on se demande... Qui c'est qui bosse ? Et ceux en première ligne, enfin, ils sont épuisés. Enfin, c'était un peu mon cas. D'ailleurs, j'ai trouvé une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, qui fait que plus on travaille et moins on est payé, plus l'entreprise a besoin de vous virer pour vous remplacer par des incompétents surpayés. Parce que les incompétents surpayés stabilisent l'entreprise, alors que ceux qui bossent beaucoup et qui sont sous-payés, en fait, ils inquiètent tout le monde. On se dit, ils vont vouloir un moment se révolter. Voilà. Donc, j'ai été viré et j'ai pu devenir écrivain.
Bah dites merci alors.
Merci au Nouvel Obs de m'avoir viré, de m'avoir permis de comprendre que je ne devais plus perdre mon temps comme journaliste.
Enfin quelqu'un qui reconnaît les bienfaits du chômage dans ce pays, c'est cool.
C'est quoi la chose la plus importante que vous voulez communiquer dans vos livres, Bernard Werber ?
J'ai combien de phrases pour... Bah, la chose la plus importante, c'est que la grande aventure, c'est l'aventure de la conscience. Et cette aventure, c'est une aventure qui actuellement accélère. C'est-à-dire que c'est pas l'intelligence. On ne va pas réussir parce qu'on est intelligent, on ne va pas réussir parce qu'on est riche ou parce qu'on est... On a du pouvoir, on va réussir parce que tout d'un coup, on a compris des trucs qu'on n'avait pas compris avant. C'est ça que j'appelle l'aventure de la conscience. Et cette aventure de la conscience, ça peut être la conscience qu'on est vivant, la conscience qu'on est sur une planète qui est en danger, la conscience qu'on est d'une forme de vie animale parmi d'autres formes de vie animale, et la conscience qu'on est connecté à des tas d'autres êtres humains et que tout seul, on pourrait pas y arriver. C'est des petites choses, on ne l'apprend pas à l'école. Mais c'est une sorte d'ouverture d'esprit. Et après, il faut l'expérimenter. Chacun y va à sa vitesse. L'école nous a déformés. L'école et les parents nous ont donné les mauvais codes. Ils nous ont dit, il faut trouver un boulot, il faut trouver une famille, il faut avoir une sorte de patrimoine. Et les gens se retrouvent à ce moment-là en ayant respecté toute la règle du jeu. Et ils ne sont pas, comme vous dites, épanouis ou heureux ou bien dans leur peau. La vraie aventure, elle est ailleurs. Et cette aventure n'a rien à voir avec l'argent, c'est une aventure de, j'ai pas d'autre terme, de prise de conscience. Pourquoi on est né ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut aider les autres ? Comment on peut agir ? Et ces choses-là, pour chacun, on y va à sa vitesse. Et voilà, donc on ne peut pas dire à l'autre, tu devrais faire ça, tu devrais te comporter comme ça. Il faut juste dire à l'autre, écoute, t'es sur ton chemin, je te souhaite d'y arriver. Maintenant, moi, sur mon chemin, je vais essayer d'y arriver.
Voilà, et dégage de mon chemin aussi quand ça va tenir.
Oui, il faut se protéger des cons. Il y a des gens aussi qui veulent interférer sur votre chemin pour vous empêcher d'avancer. Ça fait aussi partie du jeu, sinon ça serait trop facile.
Ah ouais.
Ça vous rappelle quelque chose.
Pourquoi vous nous regardez, Anne ?
Non, mais c'est pas une autoroute. Hein. Il y a des épreuves.
Il y a des épreuves dans la vie. Hein.
Non, il y a seulement des épreuves, mais il y a des gens qui veulent vous bloquer. Et ça fait... C'est pour ça que c'est un combat. Même mon héroïne, c'est pas tout d'un coup, elle comprend que les chats doivent remplacer les hommes. Elle comprend qu'il faut lutter contre les rats, parce que les rats sont aussi intelligents que les chats et peuvent eux aussi prétendre à être la civilisation qui va suivre la civilisation humaine.
Bernard Werber, un dernier mot pour donner aux gens l'envie d'acheter ce livre, Sa Majesté des Chats ?
Miaou !
Du sang, de la chic et du molar chez les chats. Et à la fin, il se passe des trucs tellement dingues qu'on ne le croit pas.
Merci. Merci Bernard Werber de passer nous voir. Rappelle vos deux ouvrages, l'encyclopédie du savoir relatif absolu des chats, tout sur les chats racontés par un chat aux éditions Albin Michel, et votre dernier roman, Sa Majesté des Chats. Merci beaucoup.
Merci à vous, Anne.
Je vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.